Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un philosophe spécialiste de l'écologie et de l'environnement pour son nouveau livre aux presses universitaires de France, Primauté du vivant, essai sur le pensable, coécrit avec la philosophe et économiste Sophie Swatton. On va parler donc d'écologie et d'environnement. Vos questions, réactions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci,
bonjour,
merci d'être au micro d'Inter ce matin, alors que s'est ouverte hier à Glasgow la COP26, décrite comme nombre de celles qui l'ont précédée comme un rendez-vous crucial sur le sujet. Il est minuit moins une, dira Boris Johnson. On va en parler dans quelques instants, tout comme de la pré-campagne présidentielle. Mais partons donc, Dominique Bourg, de votre livre et du pessimisme qui le colore dès les premières pages. Vous écrivez, je vous cite, « Les nuages s'accumulent depuis des décennies, au point que l'horizon apparaît désormais opaque, glauque, menaçant, strié d'éclairs, au fracas assourdi par l'arrogance et l'obstination ambiante. Domine une indifférence installée, sérieuse et affairée, concédant au mieux quelques effets d'annonce, sans que fondamentalement rien ne change. » Comment expliquer cette indifférence ?
C'est une énigme. Il n'y a pas une explication qui soit correcte, mais j'aime bien celle d'un écrivain originaire du Bangladesh, mais vivant en moitié en Inde et à moitié aux États-Unis, qui est Amitav Ghosh, qui a d'ailleurs écrit un essai assez extraordinaire sur le grand dérangement, sur l'anthropocène. Et dans le dernier de ses romans, La déesse et le marchand, il fait dire à un de ses personnages que finalement, le seul moyen d'expliquer un peu ce qui nous passe, ce qui se passe et nos réactions, c'est un peu comme si nous étions possédés. C'est-à-dire on aurait les moyens de faire autrement, on a une compréhension, en tout cas pour certains, assez juste de la situation, et on n'en fait pratiquement rien. Je vous rappelle qu'après chaque COP, conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, les émissions mondiales n'ont cessé d'augmenter. Mmh. Et pire que ça, je vous dirais que quand bien même on fait des efforts, et ça c'est plus gênant d'ailleurs, vous prenez par exemple les pays du G20, qui ont fait un certain nombre d'efforts, pensez à l'Allemagne qui a réduit de façon substantielle ses émissions de 90 à 2016, c'est moins 35%, récemment c'est encore moins, il y a 46% de son électricité qui est renouvelable. Et bien en fait, tous ces efforts-là et même les efforts locaux qui sont aussi non négligeables, on n'arrive pas à les voir dans les chiffres globaux. Si vous prenez par exemple les émissions du G20 en 2019, elles ont baissé de 0,1%. Alors, il y a plusieurs raisons sans doute à ça,
oui.
Mais si vous voulez, on est dans une situation qui est vraiment extrêmement difficile.
Oui, juste on va revenir sur la COP26, mais vous faites une analogie dans votre livre, une analogie historique entre notre époque et la chute de Rome. Pour quelle raison vous avez l'impression que aujourd'hui on y a la même arrogance, la même indifférence aussi aux dangers qui arrivent qu'au moment de la chute de Rome?
Oui, je cite ce passage, ce poète qui, lors d'une visite de l'empereur, fait une espèce de panégyrique et un éloge extraordinaire de l'Empire, et quelques années après, Alaric et ses troupes sont en train de saccager Rome. Et effectivement, vous voyez très bien que l'ordre mondial est en train quand même un petit peu de se déliter. La campagne électorale en France, quand on voit ça à l'extérieur, c'est un peu mon cas, je suis le bon Suisse qui vit à côté, là, ce que j'entends est complètement hallucinant, enfin totalement hallucinant.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous trouvez hallucinant?
Non mais attendez, imaginez que Raymond Aron revienne ici.
Qu'est-ce qu'il dirait?
Le pauvre vieux, je pense qu'il se suiciderait. Parce que vous avez entre 40 et 45% des gens qui votent pour une personne, si vous voulez, qui est au rebours de tout l'héritage occidental des droits humains.
C'est pas une personne, c'est l'addition de plusieurs personnes.
Oui, c'est l'addition de plusieurs personnes en plus, mais enfin bon, en tout cas, il y en a une qui est bien en avant et qu'on a mis en avant pendant des mois, si vous voulez, dans les médias. C'est quelque chose de totalement hallucinant si vous regardez ça avec un peu de distance. Totalement hallucinant. Quand j'étais formé à l'école de la République, si vous voulez, on m'a appris les valeurs, on m'a appris le respect des droits, on m'a appris le respect des institutions, etc. Qu'on voyait même quelqu'un que j'aime bien moi par ailleurs, comme Michel Barnier, qui pour des raisons électorales est en train de se dédire sur des choses comme ça, c'est hallucinant. Alors ça d'un côté, et puis effectivement le climat de l'autre, il y a peut-être un lien. C'est-à-dire qu'on est devenu complètement zinzin. C'est-à-dire qu'il y a une perte totale de repères. Et si on regarde d'ailleurs la manière dont on communique sur les questions climatiques.
Alors dites-nous.
Écoutez, elle est complètement hallucinante. Premier cas, regardez comment communiquer, et c'est la critique est facile. Et bon, mais si vous regardez la manière dont a communiqué le GIEC pendant à peu près 30 ans, c'est quand même un gag. C'est-à-dire qu'ils ont communiqué sur la fin de siècle et sur une moyenne. C'est-à-dire deux choses qui sont totalement étrangères à vos sens, totalement étrangères à votre expérience et qui, par définition, ne vous disent rien.
Donc, et si vous aviez,
si vous vouliez convaincre les gens qu'il n'y avait pas de problème avec le climat, vous communiquiez comme ça.
D'accord. Ils auraient dû faire alors, quoi attendez, voilà.
Parce que là, on l'entend encore, la dernière chance. Mais c'est minuit moins une.
Non, mais attendez, le pire, c'est que c'est juste.
Mais oui, mais.
La rhétorique n'est plus la bonne,
le message n'est pas le bon, la manière de communiquer non plus. Comment on fait alors?
Allons-y aussi.
Il faut un marabout si on est possédé.
Non, un marabout dans le jugement.
Restons dans le champ de la raison.
Tellement forte, si vous voulez, qu'un marabout n'y suffira pas. Mais non, on prenait par exemple la manière dont on communique sur nos cibles et nos résultats. On communique sur les émissions directes sur un territoire. Hein, c'est-à-dire le combustible, le carburant qu'on consomme sur un territoire. Vous prenez un pays comme la France, l'empreinte écologique des gens, c'est en gros une moitié effectivement ces émissions directes sur le territoire. Et l'autre, c'est leur consommation, c'est les émissions importées. Quand vous allez vers un pays beaucoup plus riche que la France, c'est-à-dire le Luxembourg, hein, même quand vous venez de Suisse, quand vous arrivez au Luxembourg, vous avez l'impression de venir d'un pays pauvre. Et là, c'est carrément les deux tiers, hein, c'est les deux tiers des émissions qui sont importées. Et en fait, ça, la négociation n'en tient pas compte. Maintenant, quand on continue à vous parler des 1,5 degrés, non mais écoutez, vous rigolez. Alors déjà.
Mais quoi Pardon, mais c'est ce que. Alors, pardon de citer le GIEC, ça vous ulcère, mais le GIEC effectivement communique sur ce chiffre et nous explique que on va atteindre le 1,5 degré de réchauffement en 2030, c'est-à-dire 10 ans plus tôt que ce qui devait advenir.
Tout à fait. Alors déjà, premièrement, c'est
pas
des
bien,
fourchettes.
C'est pas bien.
Si, attendez, mais si. Mais c'est déjà, c'est des fourchettes. Après, on prend une moyenne, on va dire 2030. En tout cas, ce qui pour moi est beaucoup plus important, c'est qu'on a déjà mangé 90% du budget qui aurait été nécessaire pour ne pas dépasser ces 1,5. Ensuite, si vous allez me trouver la manière dont sont calculés ces 1,5, ben, venez me le dire, on comprend pas bien. Ce qui est en fait beaucoup plus important, et ce qui serait beaucoup plus important
c'est
pour les gens, c'est de communiquer sur les moyennes à l'année. Parce que les moyennes à l'année, elles sont plus ou moins, d'ailleurs, cette année, on a eu des événements extrêmes, et très extrêmes, y compris en termes de maxima de température, et pourtant la moyenne de l'année sera plus faible que l'année encore la plus chaude, c'est celle avec El Niño, c'était 2016. Hein, et de 2020 et 2019 était à peine...
Donc je comprends pas ce que vous dites, non, que c'est alors, pas si catastrophique.
Non, c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, ce qui compte, puisqu'on est dans un phénomène qui est très mouvant et qui va très vite, c'est plutôt voir, si vous voulez, comment la vitesse du phénomène est plutôt insistée sur les moyennes à l'année. Là, on voit mieux comment les choses se passent, etc. Et en fait, le Met Office a calculé ça, on avait 40 chances sur 100 de connaître une année à 1,5 degré avant 2025. Et on en aura plusieurs après 2025. Donc c'est plus important de dire ça que de dire peut-être 2030. Et pareil pour les années à plus de 2 degrés. En fait, quand vous émettez une molécule de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle ne déploie quasi instantanément qu'un tiers de son pouvoir de réchauffement. Le reste, elle le fait sur des décennies. Ce qui fait que, grosso modo, le climat qu'on aura en 2040, c'est à peu de choses près ce qu'on a accumulé dans l'atmosphère jusqu'à aujourd'hui.
Donc, ce sera quoi alors en 2040
On aura forcément, dès le début de la décennie 2040, enfin il y a une chance non négligeable pour qu'on ait déjà des années à plus de degrés. Donc avec des événements extrêmes qui seront au prorata. Et ça,
événements alors, extrêmes, ça veut dire des inondations,
beaucoup mieux.
Ouais. Comment on parle aux non-spécialistes? Je repose la question, Dominique Bourg, parce que dans La Croix, vous disiez en 2020 que les prochaines années seront très difficiles. Ça, vous le pourriez le répéter, vous l'avez dit ce matin. Si l'on veut relever le défi climatique, c'est Churchill en 1940, du sang et des larmes. C'est une citation de vous. Donc, il faut sortir de l'incantation et ne pas préserver les populations de la rude vérité. Non, mais dites-nous, parce qu'il faut bien avancer.
Non, mais absolument. Par exemple, l'expression d'écologie punitive, elle est complètement grossière. On a un problème, s'il est de volume avec nos économies. On a un problème de volume de consommation. On a un problème de volume de richesse matérielle. Donc imaginez que vous ayez à faire un fou allié avant les neuroleptiques, vous allez chercher à le contenir. Notre civilisation est une civilisation de fous alliés. Et donc, si on ne se contient pas... Comment voulez-vous y arriver? Donc quand vous dites écologie punitive, se contenir, ça veut dire réduire un certain nombre de consommations. Ce qui détruit l'habitabilité de la Terre. Parce que c'est ça l'enjeu du climat. C'est réduire physiquement et altérer qualitativement l'habitabilité de cette planète. Vous avez un phénomène très récent qu'on a découvert que depuis quelques années, qui est la question de la chaleur humide. C'est facile à comprendre. Imaginez, vous êtes dans une contrée, il fait 35 degrés, mais vous avez un taux d'humidité largement supérieur à 80%. Comment vous régulez votre température intérieure? Par la transpiration, comme les plantes, c'est par l'évapotranspiration en quelque sorte. Si l'air est déjà complètement chargé d'humidité, vos marges sont très faibles. Et donc en fait, vous n'arrivez plus à réguler votre température, et même dans les conditions que je viens d'indiquer, vous pourrez mourir, si vous n'avez pas un refuge sec bien sûr, ou moins humide, vous mourrez alors en quelques heures quand même. Mais si vous montez les deux paramètres, ça pète plus rapide. Donc c'est le changement climatique, si vous voulez, ça va toucher jusqu'à des choses comme ça. Et donc quand vous dites ça aux gens, et quand vous regardez les événements extrêmes, Il les voit sans cesse, nos informations. Bah, ça a plus de sens qu'une moyenne de température.
Dominique Bourg, dans un texte paru en 2020, intitulé « Retour sur Terre », vous avanciez avec d'autres co-signataires 35 propositions écologistes. Parmi elles, l'idée d'un quota de consommation. À chaque achat, grâce à une carte à puce, je vous cite, vous êtes défalqué de son coût en termes d'empreinte écologique et d'empreinte carbone. Est-ce que vous pensez tout simplement que des mesures aussi radicales ou aussi transformantes soient acceptables?
Ne sont pas acceptables pour le moment, c'est-à-dire c'est ce qu'on dit en toutes lettres à la fin de ce livre. On a dit voilà, on a fait une épure. Et on sait très bien que dans la société d'aujourd'hui, c'est absolument pas acceptable. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, si vous ne vous en parlez même pas, si vous essayez pas de faire comprendre que oui, c'est pas acceptable, on peut bien comprendre, mais les amis, c'est ça qui détruit. Et donc, on peut très bien ne pas l'accepter, mais à ce moment-là, il faudra accepter ce qui vient avec. Donc, si vous voulez, si vous avez un discours qui ferme l'intelligence sur le sujet, qui la suture, on changera jamais. En publiant ce genre de proposition, on sait bien que vous n'allez pas avoir le lendemain de manifestation avec les gens qui vont vous dire « on veut des quotas ». C'est évident. Mais si dans le débat public, vous instillez pas des choses comme ça, vous sensibilisez pas au fait qu'on est dans une situation, les Grecs auraient parlé d'hubris, de démesure. Donc si vous essayez de contenir la démesure et vous dites c'est punitif, vous n'avancerez jamais d'un iota. Il suffit simplement de voir les émissions, elles sont très corrélées au niveau de richesse.
On n'ose pas vous demander ce que vous pensez du Black Friday et de ces événements-là.
J'ai bien raison de pas me le demander.
Voilà, mais je vous demande quand même, parce que ces événements pour doper justement la consommation, c'est-à-dire c'est l'inverse de votre quota de consommation. Où ils font des soldes ahurissantes pour qu'on puisse acheter les cadeaux de Noël aux enfants.
Oui, mais on peut regarder, si vous voulez, un peu les choses autrement. Moi, je me souviens d'avoir participé il y a une vingtaine d'années, c'était EPE qui avait organisé ça, ils avaient invité, alors j'ai oublié le nom de cette personne, mais elle était très intéressante, qui était un peu Madame Focus Group à Paris. Et j'avais trouvé très intéressant ce qu'elle nous racontait. Elle nous disait, ok, on continue à consommer, par inertie, mais la magie de la consommation, le fait de penser qu'en consommant, on se réalise, c'est quelque chose qui est mort. Quand vous regardez la manière dont se comporte la jeunesse, et vous avez ici commenté l'enquête publiée par le Lancet, qui vous dit avec comme pays l'Inde, le Brésil, le Nigeria, les Philippines, c'est pas les pays riches, enfin pas seulement. Vous avez 3/4 des jeunes, et quelle que soit leur posture sociale, qui taxent leur avenir d'effrayant.
Oui.
Et ces jeunes-là, ils sont capables de changer déjà aujourd'hui leur comportement. Donc en fait, si vous voulez,
vous
quand vous dites
peu, tout, pardon, monde... vous n'êtes pas un peu optimiste. Ils vont se ruer. Je vais pas faire un laïus anti-jeune facile, mais ils vont se ruer sur les dernières Nike, ils vont se ruer sur leur dernier iPhone. Vous trouvez vraiment qu'il y a un changement?
Non, franchement. Alors moi, je l'ai vu, si vous voulez, avec mes étudiantes et mes étudiants. Mmh. Par exemple, qui passe son permis de conduire? C'est
jeunes,
intéressant.
Oui.
Non, justement.
Moi, pratiquement, vous voulez dire qu'ils arrêtent de le passer. Ah oui, oui, ben
voilà. Et en fait, ils s'intéressent pas. À la voiture. Je vous dis pas que ces jeunes sont des saints. Je vous dis simplement que dans leur tête, la relation à la consommation, le fait de prendre conscience de la finitude du monde, c'est une espèce d'acquis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des études qui vous montrent aujourd'hui que vous pouvez avoir des pays avec une empreinte écologique inférieure à une planète, où on arrive à satisfaire les 11 critères des besoins sociaux fondamentaux, tels que définis par l'ONU. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait vivre mieux. Effectivement, dans un premier temps, on se prive de quelques petites choses, mais on pourrait vivre vraiment beaucoup mieux.
Dominique Bourg, l'économie française a enregistré au troisième trimestre, ça a dû vous parvenir en Suisse, l'un de ses meilleurs taux de croissance en un demi-siècle, plus 3%. C'est quasiment le niveau d'avant Covid. C'est un chiffre qui est au-delà de nos espérances. Un résultat exceptionnel, a déclaré Bruno Le Maire. Alors c'est comme pour le Black Friday et Léa, j'ose à peine vous demander, Dominique Bourg, si vous vous réjouissez, vous aussi, de cette très forte hausse de la croissance.
Alors, ce qui est très délicat, si vous voulez. Alors déjà, on est dans une situation de rattrapage. Mmh. Il nous arrive à peu près la même chose qu'en 2010. On rattrape le manque à gagner de l'année précédente. C'est certainement pas quelque chose, si vous voulez, des taux de croissance qui vont se perpétuer dans les années qui viennent. Là aussi, on est sur un problème d'imaginaire, si vous voulez. On reste toujours sur la signification de la croissance dans les 30 glorieuses. C'était très simple. C'était réduction des inégalités, plein emploi, augmentation réelle du bien-être. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est il s'agit pas de ruiner notre bien-être. Au contraire, c'est si vous voulez vous accrocher aux mauvais aspects de votre bien-être que vous allez le ruiner.
Mais alors, pardon, question de Géraldine sur l'appli d'Inter. Ouais. Bonjour, merci pour cette intervention. Elle vous remercie, mais serait-il possible d'être beaucoup plus concret quant aux mesures à prendre? Donnez-lui des exemples sur comment on se prive. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi?
Oui, alors c'est très simple, si vous voulez. Déjà aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, par exemple en termes de production alimentaire, vous pouvez avoir une production beaucoup plus saine, plus résiliente au changement climatique, plus intelligente si vous allez vous orienter du côté de l'agroécologie. Et vous avez, si vous voulez, un soin aux écosystèmes qui est quelque chose de très très important. En fait, avec les événements extrêmes qui se passent aujourd'hui, c'est ce qu'il faut que vous évitiez. Alors, prenons par exemple les transports. Mmh. Moi, j'avais beaucoup aimé l'étude qu'avait fait Bioévolution, c'est un bureau d'études. Ils avaient sorti ça, je crois, juste après le rapport du GIEC spécial de 2018, où ils avaient montré comment la France arriverait à baisser en 10 ans de 63%. C'est vrai que c'était pas simple à admettre, mais par exemple, vous avez 72% de transport aérien en moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les transports aériens restent là où il n'y a aucun substitut possible, quelque chose qui, au moins pour un temps, reste totalement accessible, et on se reporte sur des transports qui sont beaucoup moins impactants. Quand vous avez des trains dans un pays comme la France, ça sert pas à grand chose de prendre l'avion pour aller à Toulouse. C'est une question de confort extrêmement superficielle.
Vous ne me demandez pas comment vous êtes venu de Genève, hein?
En train, en TGV, avec le Yaya.
Allez, on file au standard. Beaucoup de questions, et sur l'application et au téléphone. Bonjour Benjamin.
Bonjour Nicolas Demorand, bonjour Monsieur Beau, bonjour Madame Flavé. Vous êtes venu en train, c'est super, c'est un train qui roule à l'éolienne évidemment. J'ai une question Monsieur Bourg. La France, vous savez que c'est 1% de la population mondiale, on est 70 millions sur 7 milliards.
Oui.
Et surtout, c'est le meilleur bilan carbone, la meilleure empreinte carbone d'Europe pour un grand pays industrialisé. Une voiture en France, c'est 100 grammes près de CO2 contre 130 en Allemagne ou en Angleterre. On a le meilleur bilan carbone. Est-ce que ce serait pas plutôt, au lieu de culpabiliser les Français depuis des années comme vous le faites, vous feriez pas mieux de vous intéresser à des vrais pays tolérants comme la Chine populaire, où on est 3 milliards et on pollue, mais c'est le pays.
Ils sont pas 3 milliards, vous divisez par deux.
Non, 2 milliards avec la Chine, non, ils sont 2 milliards. Ouais. Et l'Inde, où c'est guère mieux en termes de pollution, ou des pays comme le Nigeria, à horizon 2050, on sera
donc 450 millions. Donc arrêtez l'autoflagellation française, c'est ça ce que vous dites.
Arrêtez l'autoflagellation française, s'intéresser aux pays du Qatar, à nos amis qataris, qui sont les plus gros dégueulasses du monde, aux États-Unis, qui sont pas beaucoup mieux, le Canada, ce pays
sympa. On va pas faire toute la liste, Benjamin, non, on a compris l'idée. Merci beaucoup pour votre intervention. Dominique Bourvaux répond, il y a une vraie question.
Il y a une vraie question. Et en fait, le type de raisonnement que j'entends, imaginez quelqu'un qui fait un petit crime, il dit c'est pas grave parce qu'il y a des gens qui font de plus gros crimes. Non, le problème c'est d'arrêter le crime. Donc c'est un raisonnement assez bizarre. Maintenant, profitons-en sur la question, si vous voulez, de l'éolien. On continue en France à dire que l'éolien, il faut du gaz derrière, etc. Mais pas du tout. Vous avez des régions entières dans le monde où vous n'avez plus que de l'ENR. L'Allemagne, c'est 46% de son électricité. Le Danemark, c'est 60%. Par la méthanation, par l'hydrogène, on sait très bien désormais, effectivement, répondre au problème de stockage posé par l'intermittent. Donc on peut faire, mon cher monsieur, rouler les TGV aussi par de l'éolien. Il n'y a absolument aucun problème. Il faut revenir aux faits là-dessus. Alors maintenant, il ne s'agit pas simplement de culpabiliser les Français. Culpabiliser, ça ne sert à rien. En plus, la France est un pays, effectivement, qui a un gros parc nucléaire, donc qui, sur sa production d'électricité, a une production relativement peu carbonée. C'est à peu près la même chose que la Suisse, mais pour d'autres raisons. En revanche, je vous ai dit, vous avez la moitié des émissions qui sont des émissions importées. Ce que vous avez dit sur le parc automobile est très juste, et la France, sur ce plan-là, est assez vertueuse. En France, vous avez aussi beaucoup de collectivités territoriales qui font des choses assez fantastiques. Vous aviez une émission avec Ali Badou sur France Inter avec trois maires hier à midi qui était extrêmement intéressante.
Oui. Voilà. On voudrait vous faire réagir à une autre interview. C'était il y a 10 jours avec Jean-Marc Jancovici qui était en matinale, qui a beaucoup fait parler. Jean-Marc Jancovici, vous le savez, vous le connaissez d'ailleurs. Vous avez travaillé avec lui.
On a travaillé ensemble à FNH.
Lui, il dit le nucléaire, c'est une des solutions, en tout cas c'est la solution que nous avons pour l'instant, pour justement, parce que c'est une énergie décarbonée. Alors, et il est très critique sur les énergies renouvelables.
Oui, alors ses critiques sur les énergies renouvelables sont pas recevables. Les faits sont totalement contre lui. Si vous voulez, on a su répondre à la question de l'intermittence. Et donc non, ça marche pas. L'Allemagne, contrairement à ce qu'on a dit, je vous le rappelle, de 2009, de 90 à 2009, elle a baissé de 35%. Elle a encore baissé de 20% de 2005 à aujourd'hui ses émissions. Donc ça déjà, ce sont des choses qui sont fausses. Maintenant, ensuite, la question du nucléaire, elle se pose très différemment à l'échelle globale. À l'échelle internationale, la part en énergie primaire du nucléaire, c'est presque rien. En électricité, c'est à peine mieux, mais c'est peanuts à l'échelle mondiale, c'est moins de 10%. Or, si vous voulez, on a des problèmes d'uranium, et puis surtout, on a des problèmes de temps pour créer une installation nucléaire. Un EPR, on n'arrive pas à le construire, mais imaginons qu'on y arrive, ça va être à peu près une quinzaine d'années. Or, en fait, non, si on veut vraiment réduire les dégâts qui sont là et qui augmentent, il faut arriver à baisser nos émissions le plus rapidement possible. Or, tout ce qui est ENR, c'est rapide d'installation.
Les renouvelables.
Les renouvelables, voilà. Ça permet, si vous voulez, de baisser nos émissions de façon extrêmement rapide, ce que ne permet pas le nucléaire. Mmh. Ensuite, il y a une situation française qui est très particulière. On a toujours 70% de notre électricité qui est faite avec du nucléaire, mais avec des centrales qui sont vieillissantes. Les prolonger, ça a un coût, etc. On est dans une situation assez délicate en France, mais vous pouvez pas parler du nucléaire en général. Mmh. Suivant le pays, la situation est assez différente.
Elisa au standard, bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous. Rapidement, avec les déchets nucléaires, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme crée une pollution quasi éternelle. Au CIGEO de Bure, on veut enfouir des déchets qui seront radioactifs pour 14 milliards d'années, voire plus. Mmh. Que pensez-vous de ce legs aux générations futures? Est-ce qu'il faut continuer à en produire? On en a déjà 400 000 tonnes en France, on ne sait pas quoi en faire.
Merci Elisa pour cette question. Dominique,
oui, justement, la question est très intéressante parce que, si vous voulez, il y a quand même une analogie très forte sur le legs qu'on laisse. Effectivement, il y a certains déchets à haute activité et à durée très 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 longue. On est sur un pas de temps de centaines de milliers, voire de millions d'années. En fait, on fait la même chose avec le climat. Je vous rappelle que le niveau des mers, la montée du niveau des mers, c'est parti pour des millénaires. La température va se stabiliser, mais on aura une température très élevée avec du CO2 qui va rester dans l'atmosphère. Dans 10 000 ans, il y aura encore à peu près 35%. Donc on est parti pour 1000 ans avec des températures élevées. Et puis vous savez que désormais, pour le moment, le changement climatique, c'est la troisième cause de destruction de la biodiversité. Il est en passe de devenir la première. Et quand vous avez une extinction massive, c'est 5 à 10 millions d'années le pas de temps pour revenir. Donc le nucléaire, il est totalement à l'image de ce que l'on fait avec le climat. Donc me dire que c'est la solution pour le climat, le philosophe que je suis rit. Et en plus, bon, on peut parler des SMR, les petits réacteurs, c'est industriellement intelligent. Les industriels sont généralement très intelligents. Et souvent, leur critique n'arrive pas à comprendre ça. Simplement, des SMR en Afrique, avec Boko Haram, merci.
On est foutu, Dominique Bourg, ou vous y croyez encore?
Mais non, précisément, le livre qui est produit avec celui, c'est un livre très optimiste, qui essaie de montrer comment, dans les plis de la civilisation d'aujourd'hui, vous avez déjà des alternatives. Si vous les mettez toutes ensemble, ces alternatives, je vous ai parlé de l'aspect agricole, on pourrait parler, si vous voulez, du biosourcement de la production, même l'entreprise
des
à mission, c'est quelque chose d'intéressant.
Les plantes, dont vous dites c'est le lumpen prolétariat.
Du vivant.
On a conçu les plantes comme effectivement le lumpen. Enfin, en fait, si vous voulez, ce livre, très rapidement, c'est une enquête sur la pensée. Et on part du présupposé mécaniste, à savoir que humains, nous étions les seuls à penser avec Dieu, et que toute la nature, plante comprise, n'était que machine. Et l'avancée de nos connaissances, la pensée, c'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de collectif. Quand le mécanisme est né, personne n'a décidé que le mécanisme allait s'imposer. Et on s'aperçoit que, effectivement, il y a de la pensée chez les animaux, ça, il y a absolument pas de doute aujourd'hui.
Et chez les plantes.
Et effectivement, on peut se poser la question désormais de façon non stupide, mais pas en tant que
manière anthropomorphe. Hein. Oui, vous n'avez pas un cactus qui va se planter derrière un gros arbre, un baobab, que sais-je, pour aller lire Kant. C'est pas ça. Mais il y a une forme. Il y a
Léa
une forme de pensée.
Pour son ficus. Ouais.
Je suis désolé pour votre ficus, Léa, mais c'est pas à prendre en un sens anthropomorphe.
Merci. Merci beaucoup, Dominique Bourg. Oui, primauté du vivant, essai sur le pensable avec Sophie Swatton. France Inter.